Domingo, domingo, catene, catene.
C'est pas du vent. C'est pas du vent.
Catene, 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 catene.
Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, cette semaine, les experts du GIEC, le groupe intergouvernemental des experts sur le climat, sont réunis en Corée pour valider un rapport qui va nous détailler ce que sera notre monde avec un réchauffement du climat de 1,5 degré. C'est juste un demi-degré de plus qu'aujourd'hui, mais cela change tout. Leur rapport sera dévoilé lundi. En attendant, certains pays s'engagent plus que d'autres. C'est le cas du Costa Rica qui a annoncé qu'il n'émettrait pas plus de carbone qu'il ne sera capable d'en absorber d'ici 2021. Ça s'appelle la neutralité carbone. Comment ça fonctionne? Eh bien, vous découvrirez le mode d'emploi dans la deuxième partie de l'émission.
C'est pas du vent sur RFI.
Avec nos activités diverses, nous, les humains, nous avons déclenché la sixième période d'extinction de la biodiversité, déréglé la machine climatique, pollué durablement les océans. La liste des dégradations que nous avons créées est longue, mais faut-il pour autant en conclure que l'espèce humaine est intrinsèquement destructrice? C'est trop simpliste, c'est en tout cas l'avis de notre invité, Serge Bahuchet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ethno-écologue, spécialiste de l'étude des relations entre les sociétés humaines et les forêts tropicales et professeur au Muséum d'histoire naturelle. Donc partir du principe que l'homme est par essence destructeur est pour vous une erreur.
Oui, c'est une abstraction l'homme en fait. Quand on en parle de cette manière, on amalgame tout le monde. Et en fait, on sait bien que dans la surface de la Terre, il y a des sociétés qui prélèvent trop, donc on peut les considérer comme destructrices. Et puis il y en a quand même énormément d'autres qui vivent dans la nature, de la nature, et puis qui détruisent pas plus que ce dont elles ont besoin. Donc mettre un peu tout le monde sur le même plan, je trouve que c'est un petit peu facile.
Ça dilue les responsabilités.
Exactement.
Et dans votre livre, ce qui est intéressant, c'est que vous balayez, vous êtes allé beaucoup sur le terrain en Afrique, mais vous prenez des exemples partout dans le monde, et vous dites que finalement, on a un peu rompu le contrat qui nous unissait avec la nature depuis les millénaires, depuis finalement le début de l'agriculture. C'est quoi? C'est moins 12 500 avant Jésus-Christ, c'est à peu près ça ce qu'on dit, non?
Oui, les dates les plus anciennes, c'est autour de 12 000, mais en fait, disons, la plus grosse partie de la domestication des plantes et des animaux, c'est autour de 7 000, 5 000. Et effectivement, c'est à ce moment-là qu'il y a la mise en place de l'agriculture, de l'élevage, et on va avoir des transformations des paysages assez importantes. Mais les transformations vont s'accélérer à partir du 19e siècle, finalement.
Oui, mais donc pendant des millénaires, finalement, nous avons, nous, vécu en harmonie avec la nature, grâce à la diversité biologique dont on dépendait étroitement, et on a façonné, quelque part, les paysages, dans une forme d'interdépendance de part et d'autre entre la nature et les humains. Ça se passait plutôt bien. C'est que depuis très peu de temps, finalement, que ça s'est dégradé.
C'est
à l'échelle de l'histoire de l'humain.
Bon, il y a eu des perturbations avant, bien entendu. Hein. L'homme, il est quand même pas si sage que ça, en général. Mais il y a eu un impact beaucoup plus grand. D'abord parce que la population s'est accrue considérablement depuis 50 ou 60 ans ou 100 ans. Hein. On est passé de 3-4 milliards à 9 milliards en moins d'un siècle. Hein. Donc c'est quelque chose d'absolument vertigineux. À partir de là, il y a effectivement une pression sur les ressources qui s'accroît. La nécessité de plus de surface agricole. Il y a aussi l'expansion coloniale à partir du moment où les Occidentaux vont s'installer sous les tropiques pour obtenir des ressources dont ils ont besoin. Ils changent le milieu naturel, ils changent le mode de vie des sociétés. Donc ça, c'est le 19e siècle. Et puis, l'élément moi qui m'a paru le plus important, finalement, bon, moi, vous l'avez dit, j'ai travaillé en Afrique centrale, la forêt équatoriale, c'est le mythe de la forêt vierge pour nous, les Occidentaux. Et en fait, on sait maintenant, grâce aux études des historiens, des anthropologues, des archéologues, que dans la forêt équatoriale, les hommes ont fait de l'agriculture dans des milieux où l'on pense qu'ils sont intacts de présence humaine. Et on sait qu'il y a des hommes dans la forêt depuis plus de 10 000, 20 000, 30 000 ans. Et l'agriculture, elle a transformé les milieux. À partir de là, il arrive à une constatation solide, qui est certaine, c'est que ces forêts qu'on essaye de conserver aujourd'hui par des parcs nationaux en disant les hommes la détruisent, ces forêts, elles ont été construites si on veut, avec la présence de l'homme. Et donc, là, il y a alors, évidemment, quand on est en France, qu'on se promène dans les champs, c'est évident que les champs de blé, il y a des milliers de générations d'agriculteurs, ça va de soi. Mais il y a plein de milieux où on ne s'en rend pas compte, mais où ils ont été présents aussi, nos ancêtres.
Et donc, à partir de là, vous dites, c'est possible de réécrire un contrat.
Alors ça, c'est le souhait. Après, il y a des réalités qui sont qu'il y a la moitié de la population du monde qui vit dans des villes. Donc ça, ça fait des ordres majeurs, parce qu'il faut les nourrir, tous ces gens-là. Donc il faut avoir des systèmes de production agricole et d'approvisionnement, des réseaux d'approvisionnement qui permettent de nourrir tout ce monde-là. Vous savez, en Afrique, un des problèmes majeurs, c'est le bois de feu. Pour alimenter les foyers, il faut du bois. Et pour avoir du bois, ben on va le couper dans la brousse. Donc toutes les brousses qui sont autour des villes, elles sont désertes. Donc il y a à trouver des processus de gestion des espaces et des ressources qui soient beaucoup plus harmonieux que ce que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quand même très anarchique à mon point de vue.
Et même en dehors des grandes villes, hein, en Afrique centrale, donc, que vous connaissez bien, ce n'est pas simple de concilier préservation de la nature et développement humain. Par exemple, en Centrafrique, à Bayanga, à 550 km à l'ouest de la capitale Bangui, nous sommes au milieu de la forêt tropicale humide où vit un peuple que vous connaissez bien, hein, Serge Bahuchet, les pygmées Baaka. Et c'est dans cet endroit qu'à la fin des années 80, le gouvernement centrafricain et l'ONG internationale WWF décident de créer une aire protégée qui deviendra un parc national et une réserve étendue sur plusieurs milliers de kilomètres carrés. Protéger la nature au détriment de la population locale, c'est ce qu'avait pu constater Guillaume Thibault lorsqu'il s'était rendu sur place.
Vous écoutez, c'est pas du vent sur RFI à Bayanga.
Tonton Robert, où est-ce qu'on est ici?
On est à l'usine, l'ex-usine l'ex-BB. Tout est brûlé, tout est brûlé. Regarde devant nous, tout est brûlé. Donc, j'ai travaillé ici pendant 20 ans. On voit des carcasses de maisons. Un grand hangar parce qu'il y avait des usines de plaquage, l'usine de scierie, ça a pris feu. C'est malheureux. C'est malheureux pour regarder d'abord des choses comme ça. Tout est gâté, tout est gâté, tout est pris feu, il n'y a rien.
Combien on gagnait quand on travaillait ici?
Ouais, ça dépend. D'abord, les ouvriers gagnaient 60, 70 000, 80 000. D'autres à 120 000, 200 000. Et les manœuvres à 25 000. Il y avait beaucoup de gens, plus de 800 personnes qui travaillaient d'ici.
Et il y avait beaucoup d'argent.
Beaucoup d'argent qui tombait d'abord chaque fin du mois à la ville de Bayanga. Maintenant, il n'y a plus rien. La mairie souffre beaucoup. Ça fait même 4 ans, 5 ans même, il n'y a pas d'argent.
En 2004, c'est interdit de couper le bois autour de Bayanga, donc l'usine ferme.
Oui, c'est interdit de couper le bois, l'usine ferme. Et ça a resté comme ça, et envahi par des herbes, et ça a pris feu.
Voilà, au milieu des ruines de l'usine, il y a quelques femmes qui ramassent des petites choses. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là?
Nous sommes venus chercher des écrous.
Des pointes, les petits
oui,
clous
des pointes, oui. On voulait aller construire avec une autre maison, une autre petite hutte.
D'après vous, pourquoi cette usine a fermé? À cause de quoi?
Bon, cette usine a été fermée, c'est parce qu'il y avait beaucoup d'arriérés du salaire. Ça ne nous arrange pas, parce qu'ici à Bayanga, la plupart des populations vivaient à cause de cette société. Les animaux sont plus protégés que les personnes ici à Bayanga. Ça me rend triste, parce qu'une ville a besoin des populations et non des animaux.
Ou peut-être de trouver le juste milieu entre les hommes et les animaux?
Oui, il faut qu'il y ait une entente entre la population et ceux du projet.
Le projet, c'est les gens de WWF notamment qui gèrent la réserve.
Oui, ce sont eux. Donc c'est trop difficile pour nous ici.
Pourquoi cette usine est fermée?
Vous savez bien que le problème de la forêt, c'est un problème de haut niveau. Ils ont parlé de changement de climat, de tout ça là. Donc on peut arrêter d'abord l'usine à cause de ça, pour avoir de l'air aussi. Il y a les carbones, il y a les quoi, tout ça.
Tout l'aspect environnemental est passé devant l'homme.
L'homme, c'est ça, pour avoir de bonnes respirations. En Europe, même en Afrique aussi. On a besoin d'abord de l'air aussi.
Mais en attendant, la population de Bayanga, elle souffre.
Oui, elle souffre. Mais dans la nature, vous savez bien que S'il n'y a rien, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de quoi, la personne doit souffrir. C'est toujours c'est comme ça, dans la vie.
Avec la pression maintenant, je ne suis pas optimiste, mais c'est difficile de savoir ce qu'il y aura dans les années qui arrivent. Hein. Je m'appelle Andrea Turcalo, je suis un chercheur pour un ONG américain, Wildlife Conservation Society, et je viens de faire 20 ans ici sur une étude des éléphants de forêt à Zangabay, qui se situe à Bayanga, en République centrafricaine. Chaque année, je vois la destruction. Maintenant, il y en a beaucoup d'exploitation de bois. À l'est, il y a 10 ans, il n'y avait rien là-bas. Donc, il y avait une superficie énorme pour les éléphants. Et maintenant, il y a une compression. Et les gens, on a une tendance de blâmer les éléphants pour tous les problèmes. Mais le problème, ce n'est pas les éléphants, c'est les êtres humains et nos activités.
Serge Bahuchet, comment réagissez-vous à ce reportage qui vous a fait sourire et qui vous a interpellé par moments? Je vous ai vu réagir.
En effet, j'ai été à cet endroit, à Bayanga, à l'époque où il y avait encore la Syrie. Et j'ai un beau souvenir de cette... C'était une superbe Syrie, était très intelligente. Les déchets de bois étaient brûlés dans la centrale génératrice d'énergie, par exemple. C'était très bien pensé. C'était longtemps avant que le parc national soit mis en place. Ouais. Le parc national, il a été créé... C'est une forêt où il n'y a à peu près pas d'habitants. Hein. Donc il n'y avait pas vraiment de pression humaine sur la faune. Mais c'est une forêt très riche où il y avait beaucoup de grands mammifères. Évidemment, les éléphants dont il a été question, des gorilles, énormément de gorilles. Et beaucoup d'autres animaux. Et a été créé le parc national, et il a été créé d'une manière assez ambitieuse parce que il est prolongé comme Bayanga, c'est à la frontière du Cameroun et du Congo. Et il y a eu 2 autres parcs nationaux qui ont été créés dans la contiguïté, l'un au nord Congo et l'autre à l'est du Cameroun. Et ça fait une immense surface contiguë avec des problèmes de co-gestion parce que c'est pas les mêmes législations dans les 3 pays. Et puis effectivement, ce sont insérer là-dedans des problèmes de coexistence avec les communautés rurales, pas tellement avec les employés de la Syrie, parce qu'en fait, une partie d'entre eux, c'était des ouvriers qui avaient été apportés d'autres régions. Donc effectivement, il y a un problème de sous-emploi, une partie compensée parce que le parc a engagé du personnel quand même.
Oui, mais on entendait bien dans le reportage cette femme qui dit « on préfère protéger les animaux plutôt que les hommes ».
Oui, il y a une sorte de conflit de décision politique, mais aussi, peut-être plus profondément, de conflit de conception de la nature. Et on l'entendait dans l'expression de la zoologue qui parlait en disant le problème, c'est pas les éléphants, c'est les hommes. Donc on voit bien la philosophie qui est sous-jacente. Les deux peuvent vivre ensemble, mais on oppose d'un côté la conservation de la nature en disant l'homme est néfaste, il faut l'en sortir et la nature vivra mieux sans lui. Et puis les hommes, et ben, il faut bien qu'ils mangent, ces gens-là. Enfin, donc il y a une compétition de conception, de philosophie, plutôt que de chercher une solution de coexistence.
Alors récemment, le journal Le Monde a dévoilé un rapport de l'ONG Survival International dans lequel des dizaines de témoignages raniment justement cette polémique sur la persécution dont sont victimes ces populations qui vivent aux abords des aires protégées auxquelles l'accès leur est soit interdit, soit restreint. Alors Frédéric Kwame Kuma, qui est directeur pour l'Afrique du WWF, n'a pas nié cette réalité, la réalité de ces violences. Après, il en a contesté un peu l'ampleur et il affirme que son organisation n'a aucune tolérance pour les éco-gardes qui en sont les auteurs. Mais globalement, la tension entre conservation de la nature et utilisation des terres et des ressources ne cesse d'augmenter en Afrique centrale comme ailleurs.
Alors c'est un fait. Le rapport qui a été publié, qui est indéniable, il reprend des faits qui s'étalent sur une période de temps relativement longue. Ce n'est pas quelque chose qui s'est passé la semaine dernière. Il y a des éléments qui remontent à il y a 3 mois, 6 mois, 8 mois ou plus. Il faut pondérer un petit peu ce qui est dit. Il y a 2 sortes de difficultés. La première, c'est qu'effectivement, les habitants, que ce soit des chasseurs-cueilleurs nomades, des pygmées Aka ou autres, ou les agriculteurs qui font quelque chose qui est fort décrié, qui s'appelle l'agriculture itinérante sur brûlis. Donc ça, les agronomes supportent pas ça, les pouvoirs publics supportent pas ça, mais c'est quand même comme ça qu'ils vivent. Donc ça veut dire couper 1,5 hectare de forêt, le brûler, puis le cultiver un an, et puis après on l'abandonne, et ça repousse. On oublie toujours que ça repousse. Hein. Mais en fait, quand ont été créés les parcs nationaux, les terres laissées à l'usage des habitants ont été délimitées sur les surfaces défrichées. Donc ils n'ont plus le droit de faire la jachère itinérante. Donc là, ça pose des problèmes de régénération du sol. Alors en ce qui concerne les chasseurs-cueilleurs, effectivement, ils n'ont pas le droit de chasser. Donc on se retrouve avec des gens qui n'ont plus d'accès à la nourriture. Et on sait, pour le Cameroun, il y a des collègues japonais à moi qui travaillent dans ces régions, qui ont dénoncé de la malnutrition chez les pygmées. C'est quand même invraisemblable. Donc il y a une vraie difficulté d'accès à la ressource. On n'arrive pas à concevoir ces modes de vie forestiers. L'autre aspect, c'est un aspect de gestion. Il se trouve que les gouvernements, étant dépourvus de moyens civils, ont délégué à des entreprises privées, des ONG, la gestion des parcs nationaux. Donc en fait, les exactions, elles sont dues non pas aux gardes des eaux et forêts de ces nations, mais aux employés privés, finalement, des sociétés qui gèrent les parcs. Et ceux-là, ils sont ingérables. Et donc, effectivement, ils vont battre, saisir, brimer. Et quelquefois, ils vont battre ou saisir parce qu'ils veulent la viande eux-mêmes. C'est pas toujours pour la brûler. Et donc, il y a
un manque global de concertation, de moyens.
Il y a le défaut de ces pays qui finalement, s'en sont remis à d'autres pour faire des choses qu'ils ne sont pas capables de faire eux-mêmes. J'ajouterais quand même, il y a quand même au fond des choses le fait que on ne veut pas que les hommes utilisent les ressources de la nature.
Ce sont les hommes du lieu, enfin, historiquement, c'est leur nature, on a envie de dire.
C'est leur nature.
Si elle peut appartenir à quelqu'un.
Mais on est aussi dans une logique qui, là, est globale au niveau du monde entier, c'est-à-dire qu'on préfère que les gens, par exemple, ils cultivent du café et qu'ils soient rémunérés pour le café, plutôt qu'ils fassent d'une agriculture vivrière autarcique, non productive. Il y avait un slogan en Centrafrique, quand moi j'y ai travaillé, c'était il y a quand même longtemps maintenant, on disait justement des petits paysans ou des pygmées, il faut que ces gens-là participent à l'effort de construction nationale. Ça veut dire devenez des vrais paysans, puis produisez, puis arrêtez d'être des paresseux qui cultivaient juste pour vous nourrir.
Oui, mais résultat, ça ne marche pas très bien. Alors nous avons toujours su, vous le montrez dans votre livre, au cours de notre évolution, trouver des solutions inventives pour cohabiter harmonieusement avec la nature. Eh bien, finalement, il faut qu'on se fasse confiance, c'est ça ?
Ce que j'essaye de démontrer à travers mon livre, bon, d'abord, c'est la richesse, l'inventivité de l'homme, des hommes, à travers les siècles et dans tous les espaces. Mais ce n'est pas non plus un livre de recettes. Je veux dire, je n'ai pas été faire l'inventaire des belles réalisations qui existaient. D'autres l'ont fait très bien. Mais je suis parti d'une déception que beaucoup d'entre nous avons vécue, qui a été le 20e anniversaire de la Convention de Rio. C'était à nouveau à Rio, c'était en 2012, et c'était le sommet de la Terre, le troisième, et on pensait que ce serait le sacre de l'économie verte. Ça a été un flop total. On s'est rendu compte que les gouvernements, aucun d'entre eux voulait s'engager à rien, ils ne veulent pas gaspiller de sous, ils ne veulent pas prendre des décisions qui risquent de les contraindre dans leur développement économique, ni quoi que ce soit. D'ailleurs, dans le compte-rendu de ce sommet de la Terre, le mot biodiversité n'y a pas été. Donc il n'y avait pas de biodiversité, il n'y avait pas d'économie verte. Et donc on s'est rendu compte en fait que si on veut avancer, il ne faut pas faire confiance au gouvernement, ils ne feront rien. Il faut que ce soit la société civile qui s'en empare, donc nous, les électeurs, qu'on choisisse ce qu'on veut faire, qu'on fasse par nous-mêmes, et puis qu'on pousse nos députés ou autres à prendre des décisions qui nous intéressent. Ils ne le feront pas tout seuls.
Voilà, donc mobilisons-nous.
Exactement.
C'est ce auquel vous nous incitez. Et puis, dans votre livre, vous nous réconciliez avec l'homme et, en effet, son inventivité par rapport à la nature et une cohabitation possible. Ça fait du bien. Merci beaucoup,
Serge
Bahuchet, d'être passé dans C'est pas du vent. Je rappelle donc le titre de votre livre, Les jardiniers de la nature. C'est publié chez Odile Jacob. Restez avec nous sur RFI. Juste après cette petite pause, nous irons au Costa Rica.
Everybody running to the carnival, I say, believe me. Everybody running to this Rian carnival day. Old and the young, the great and the small, everybody running to the carnival. Everybody running to the carnival, I say. Me tell you, everybody running to the carnival, I say, believe me. Everybody running to the spree and carnival day. Old and the young, the great and the small, everybody running to the carnival. Everybody running to the carnival, I say. Down to one shot, Willie and the mother-in-law, Mimi, believe me. See them pushing through the crowd on carnival day. Nothing to eat and nothing to wear but the carnival. They are bound to be dear, brother. Everybody running to the carnival, I say. Everybody running to the carnival, I say.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Le Costa Rica, bordé à l'ouest par le Pacifique et à l'est par la mer des Caraïbes, regroupe 6% de la biodiversité mondiale. Ce petit pays d'Amérique centrale est souvent cité comme exemplaire dans la gestion de son environnement, surtout depuis que son président, Oscar Arria, a annoncé en 2007 qu'il serait le premier pays neutre en carbone d'ici 2021. Cela veut dire que l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre émis par les activités industrielles et le mode de vie de ses 5 millions d'habitants sera compensé. Le pays n'aura alors plus d'impact sur le climat. 10 ans plus tard, que s'est-il passé ? Costa Rica, le défi de la neutralité carbone, c'est un reportage de Léa Morillon réalisé par François Porcheron.
Je suis Edgar Gutiérrez, le ministre de l'Environnement et de l'Énergie du Costa Rica. L'aspiration du Costa Rica de devenir un pays neutre en carbone d'ici 2021 vient d'une déclaration politique du président Oscar Arias en 2007. C'est une déclaration politique. Il n'y avait aucune mesure prévue derrière. C'est juste une aspiration. Alors pourquoi en 2021 ? Parce que en 2021, le Costa Rica fêtera le bicentenaire de son indépendance. C'était assez irresponsable parce qu'il n'y avait aucune étude scientifique derrière permettant de dire si l'objectif pouvait être atteint ou pas. Cependant, cette déclaration politique a eu un effet très positif sur la société costaricienne. Les gens ont commencé à parler de la neutralité carbone comme d'un objectif national.
En 2009,
lors de la conférence climat de Copenhague au Danemark, le Costa Rica a officiellement présenté son aspiration de devenir neutre en carbone en 2021. Ce qui signifie qu'en 2021, nous aurons le même niveau d'émission qu'en 2005. C'est la définition qu'a utilisée le Costa Rica lors de la COP. Après cela, le pays a continué son programme lié au changement climatique. On a créé le programme Pays Neutralité Carbone. Et on a commencé à introduire un nouveau concept, à savoir émission moins réduction moins compensation est égal à zéro. Et si c'est égal à zéro, alors on est neutre en carbone. Donc en fait, il y a deux concepts de la neutralité carbone. Une équation qui doit être égale à zéro et une aspiration qui est d'avoir les mêmes émissions qu'en 2005.
Leia? Hi. Nice to meet you. I'm Jenny.
Nice to meet you.
Lydia.
Let's get you in
and let's go.
L'une des variables de l'équation pour atteindre la neutralité carbone, c'est l'absorption des émissions, ce qu'a favorisé jusqu'à présent les gouvernements costariciens. Le meilleur moyen pour cela étant bien sûr de replanter des arbres. Et l'État n'est pas le seul à œuvrer à cette tâche, il existe de nombreuses associations, comme par exemple Community Carbon Tree. On est à bord du 4x4 de sa présidente, Jennifer Smith. Cette Américaine est installée à Platanillo, à 15 km de l'océan Pacifique, depuis une quinzaine d'années. Et là, elle nous emmène jusqu'à la nurserie où se trouvent les jeunes pousses d'arbres. Autour de nous s'étend la vallée de Platanillo et son herbe bien verte. Ici, pas de végétation luxuriante. On remarque qu'il y a peu d'arbres. Nous observons même à certains endroits que des pans entiers des collines se sont affaissés, laissant apparaître une couleur rougeâtre.
What happened here? Qu'est-ce qui s'est passé ici?
Ils ont abattu les arbres pour l'élevage bovin. Et la terre a commencé à s'éroder, parce que c'est la forêt tropicale qui la maintenait. Et donc après 2 ans de violentes pluies conjuguées à un soleil tapant, toute la terre a été balayée. On se retrouve avec de l'argile qui a commencé à s'affaisser. Et vous pouvez le voir, Un jour, il y aura des glissements de terrain. Donc, il est question là de tous les avantages de planter des arbres sous l'équateur. Parce que quand cette terre et les excréments de vaches vont jusqu'à la rivière, qui elle-même finit dans l'océan, cela fait plein de nitrogène. Résultat, ça fait augmenter la température. Donc le plancton meurt alors que lui aussi permet de recycler le dioxyde de carbone, en plus des arbres. Donc l'océan se réchauffe. Il n'y a pas assez d'arbres pour compenser ce que l'océan faisait. Du coup, la température ne fait qu'augmenter. D'ailleurs, j'ai lu un article ce matin. Une nouvelle étude met en relation les tempêtes de plus en plus violentes avec la température des océans et le fait que l'équateur ne rafraîchit plus assez les pluies. Ici, on a au moins 40 espèces d'arbres. Tous élevés un par un avec de l'amour, du soin, du temps et du suivi. Et nous créons des emplois à chaque étape du processus. Donc, on a à peu près 13 000 arbres en gestion et seulement 11 000 d'entre eux sont financés. On plante toujours en prenant de l'avance. On ne compte pas sur le fait d'avoir plus de sponsors que d'arbres. On avance.
Et vous n'avez aucune aide de la part de l'État costaricien ?
Non. Ils ont leur propre programme de replantation qui s'appelle le Fauna FIFO. Ils donnent l'argent directement aux propriétaires de fermes. Ils les paient vraiment un tout petit peu pour replanter un arbre. Un des programmes du Fauna FIFO que j'apprécie vraiment, c'est le paiement pour services environnementaux. Ce programme paie environ $125 par hectare de forêt tropicale protégée. Donc, un fermier qui dispose de 15 hectares de forêt tropicale peut toucher $1,800 par an. Ce sont des subventions qui augmentent tous les 5 ans. Et la seule règle, c'est simplement rester en dehors de la forêt, laissez-la tranquille et préservez-la. Je pense que c'est vraiment un programme efficace.
Les moyens mis en œuvre par l'État, mais aussi par des associations comme celle-ci, a permis au Costa Rica d'arriver aujourd'hui à une couverture forestière qui représente environ 50% de son territoire. Le tout est de savoir si cela suffit pour compenser les émissions de carbone du pays. Il faut donc pouvoir mesurer la capacité d'absorption des arbres. Et c'est notamment ce qu'on apprend à l'université Earth, qui forme depuis 1990 les futurs acteurs du développement durable. Alors, direction le campus, qui se situe à mi-chemin entre San José et la côte Caraïbe, à la rencontre d'un groupe d'étudiants chargés de ces mesures. Ici étudient des jeunes venus du monde entier. L'endroit semble idéal pour apprendre. Les quelques bâtiments de la faculté sont entourés d'une dizaine d'hectares de végétation où se côtoient forêts tropicales, zones reboisées et autres bananeraies.
Bonjour, je m'appelle Carolina Aguilar, je suis étudiante à l'université Earth en quatrième année et je ne vis pas loin de l'université.
Comment est-ce qu'on calcule exactement la capacité d'absorption de différents arbres ?
Vous savez, tous les arbres sont différents. Alors ce qu'on fait pour calculer la quantité de carbone que peut absorber chaque arbre, c'est de mesurer son diamètre, sa circonférence et ensuite sa hauteur. À partir de ça, on peut connaître la forme du tronc qui est la partie qui capture le plus de CO2. Puis, on la multiplie par un coefficient qui dépend de l'espèce de l'arbre. C'est un coefficient qui nous permet de dire la quantité de carbone capturée par l'arbre pour une période donnée. Parce que chaque arbre pousse plus ou moins rapidement en fonction du moment de l'année. Plus l'arbre est fort, plus il a d'années, plus il absorbera de carbone.
Est-ce que la capacité des arbres du Costa Rica vont pouvoir absorber encore plus de CO2 ?
On comprend bien qu'une forêt a une limite d'absorption du dioxyde de carbone, parce qu'il arrive un point où les arbres ne peuvent plus absorber le CO2 à la même vitesse. Plus ils sont vieux, plus c'est difficile. C'est pour ça qu'il est préférable, d'une certaine manière, pour absorber plus de carbone, de miser plutôt sur la reforestation. Donc arriver à un certain âge, on les coupe et on en replante de nouveau. De cette manière, on arriverait à un cycle plus efficace, parce que les forêts sont hyper importantes, pas seulement pour absorber le carbone, mais aussi pour les réserves d'eau.
c'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Cuando te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan el sol y el cielo entero, si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del bueno.
En 2012, les autorités estimaient que 40% des émissions de gaz à effet de serre du Costa Rica étaient compensées par ces forêts. Mais aujourd'hui, la compensation n'est plus l'unique priorité. Le pays se focalise davantage sur la réduction de ses émissions, et d'autant plus depuis l'accord de Paris. Le processus de décarbonisation de l'économie costaricienne est donc lancé, économie principalement basée sur le tourisme et l'agriculture. On reprend la route, pour cette fois le nord de San José, où se trouvent de nombreuses plantations de café. Au milieu d'entre elles se trouve l'Institut du Café, où nous avons rendez-vous avec son directeur technique, Carlos Fonseca. Il pilote ce qu'on appelle le Nama Café, une première mondiale, à savoir une stratégie appuyée par l'aide internationale pour réduire les émissions de carbone dans le secteur caféier.
De los mejores cafetales del país viene el mejor café de Costa Rica.
El cafetal de tu mesa, dorado solo pureza.
Et Carlos Fonseca.
Carlos Fonseca, je suis directeur technique de l'Institut du Café du Costa Rica.
Aujourd'hui, la production de café au Costa Rica représente quelle quantité d'émissions de gaz à effet de serre?
Pour chaque kilo de café que le pays produit, on émet entre 0,5 et 1,5 kg de CO2. Ça, c'est la moyenne du pays. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est en dessous de la moyenne mondiale. Donc, on peut déjà dire qu'on produit un café faible en émissions de carbone, étant donné que la base mondiale est de 2. Mais ça n'empêche pas de mettre en place des actions de réduction d'émissions de CO2 pour obtenir un chiffre encore plus bas.
Et concrètement, quelles sont les actions que vous avez menées et que vous allez continuer de mener pour décarboniser la production de café ici au Costa Rica?
Au niveau des plantations, on va essayer d'installer des procédés qui absorbent le carbone. Par exemple, moi, dans ma plantation, j'ai mis en place un système agroforestier. Ça, c'est une des actions mises en place par le projet NAMA, mettre plus de systèmes agroforestiers dans les plantations, mais qui ne limite pas la production. Ça, c'est important. Autre action concrète, je vais fertiliser en fonction de ce que me dit l'analyse des sols. Je ne vais pas fertiliser n'importe comment.
Prenons
un autre exemple, la pulpe de café. Sans un traitement adéquat, elle peut générer une quantité de carbone très élevée. Par contre, si je l'utilise et la convertis en énergie, alors le carbone ne va pas dans l'atmosphère et je peux l'utiliser comme biocarburant. Donc tout ça, plus la gestion de l'eau, ce sont les actions qui vont m'offrir la possibilité de réduire mon empreinte carbone. Et c'est à ça que le projet s'attelle.
L'utilisation des énergies renouvelables dans le processus de plantation de café, comme dans les autres secteurs, constitue un moyen non négligeable de réduction de l'empreinte carbone. Et le Costa Rica n'est bien sûr pas en reste dans ce domaine, puisque 98% de son électricité est produite proprement, grâce à l'énergie hydraulique, géothermique, mais aussi dans une moindre mesure éolienne et solaire. L'électricité verte est une grande fierté ici. Elle a également aidé certaines entreprises du pays à obtenir la certification carbone neutre. L'un des organismes participant à cette certification, c'est l'université Earth. On retourne donc sur le campus, mais cette fois direction l'unité neutralité carbone de l'université.
Hola. Hola. Hola.
Hola.
Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola
Je m'appelle Edmundo Castro, je suis le directeur de l'unité neutralité carbone de l'université Earth. C'est un organe certifié chargé de la vérification des émissions de gaz à effet de serre. Nous avons lancé ce programme afin d'appuyer les entreprises et les organisations du secteur public pour qu'ils puissent agir de manière plus responsable envers l'environnement, pour qu'ils comprennent le concept d'externalité et qu'ils opèrent pour une économie plus saine, et aussi pour changer le comportement des gens.
Et comment se passe exactement la vérification? Quels sont les critères que les entreprises doivent remplir?
Les entreprises doivent remplir des critères normatifs, des normes internationales. Et en plus, il existe une norme nationale qui nous permet de développer un plan additionnel de réduction et de compensation des émissions pour que l'entreprise arrive à la neutralité au niveau de son bilan carbone. La certification est vérifiée chaque année. Tous les ans, on doit retourner voir l'entreprise pour savoir si elle répond toujours aux exigences et aux critères normatifs.
Dans quel secteur d'activité sont les entreprises qui viennent vous voir?
De secteurs très variés. Par exemple, le secteur des services, des hôpitaux, des transports, de la restauration, de l'hôtellerie. Mais il y a également le secteur industriel, touristique, l'agriculture, l'élevage. En faisant ça, les entreprises recherchent à donner une meilleure image. Elles pourraient aussi l'utiliser comme un argument marketing. Mais malheureusement, au Costa Rica, ce processus de certification est totalement volontaire.
Aujourd'hui, au Costa Rica, près de 90 entreprises disposent de cette certification carbone neutre. L'effort semble donc se généraliser dans la société costaricienne pour atteindre l'objectif en 2021, mais certains domaines posent encore largement problème.
Bonjour.
Ça va bien?
Oui, ça va et vous?
Si vous voulez, on passe à côté?
Oui, très bien.
Nous sommes à l'Université nationale du Costa Rica, à San José, pour rencontrer Nicolas Beuglin, un professeur français de droit international qui vit ici depuis de nombreuses années. Lui, comme beaucoup d'autres costariciens, doute du bien fondé de cet objectif neutralité carbone.
Alors la carbone neutralité, il faut savoir que ça provient d'un gouvernement qui a été particulièrement agressif contre l'environnement, c'est-à-dire un gouvernement qui déclare d'intérêt national un projet minier d'une entreprise canadienne. C'est un gros scandale qu'on connaît peu ou mal en France et dans d'autres parties du monde, dans la mesure où le Costa Rica est un pays qui projette une image qui va tout à fait à l'encontre de scandales du point de vue écologique. Alors, l'un de ces scandales, c'est Crucitas, et l'un des autres gros scandales, c'est la culture de l'ananas, qui est aussi à trouver dans cette administration 2006-2010 un appui sans faille pour que le Costa Rica devienne le premier producteur mondial d'ananas. Et cela se doit à une façon de concevoir les contrôles en matière environnementale qui pratiquement laisse les producteurs de l'ananas faire ce qu'ils veulent et de semer leur plantation là où ils veulent, sans aucun contrôle. Et on s'est rendu compte que ce ne sont pas 37 200 hectares d'ananas comme le prétend Commerce extérieur et le ministère de la Culture, ce sont 58 000 hectares d'ananas. Mais ça, c'est fait par accident, parce que le PNUD avait des images satellites qu'il utilisait pour d'autres choses, et on a réussi à les utiliser pour démontrer que l'ananas est bien plus important que ce que prétendent les autorités. Donc, voyez là aussi une stratégie du gouvernement costaricien de ne pas donner des chiffres qui donnent une idée réelle de l'avancée de la frontière de l'ananas sur les forêts tropicales.
Oui, parce que ça pollue énormément et ça produit énormément de dioxyde de carbone, j'imagine, cette culture de l'ananas.
Alors, quand vous lisez la liste des substances chimiques qui sont utilisées, ça fait vraiment peur, parce que certaines de ces substances sont prohibées par l'Union européenne. Le meilleur exemple, c'est le paraquat. Alors, on est dans un pays où il pleut beaucoup, et les zones où l'on est en train de semer l'ananas sont les zones où il pleut le plus. Et on a découvert que l'ananas a besoin de tout, sauf de beaucoup d'eau. Donc ils sont obligés de drainer à travers des canaux toute cette quantité d'eau, de pluie, mélangée avec ces substances chimiques. Le résultat, on peut le voir, vous pouvez aller voir les canaux d'irrigation des plantations d'ananas, il n'y vit aucune espèce parce qu'il y a quelque chose qui prive de vie tout être vivant. La relation de ces entreprises avec les autorités sont telles qu'il vaut mieux ne pas parler, il vaut mieux ne pas faire d'enquête sur les conséquences exactes de la production d'ananas au Costa Rica.
Buenas. ¿Qué van a tomar? Yo quiero algo natural. Hoy tenemos piña, casmora, frutas y guanábana.
¿Piña?
Piña.
Regálenos tres fresquitos de piña.
Con mucho gusto.
Nous voulons quand même en savoir un peu plus. Nous partons donc pour Siquirés de la province de Limón dans la zone Caraïbe. Ici, le climat est différent de la capitale. Beaucoup plus chaud, beaucoup plus humide. Atmosphère tropicale.
Tómese la fruta.
Dans l'école de la ville, de nombreuses femmes se sont réunies. Quelques hommes sont présents aussi. Ils sont venus de tout le canton pour échanger et trouver des solutions à leurs problèmes liés à la culture de l'ananas.
Buenas tardes. Soy Claudia Rodríguez de Louisiana de Siquirés.
Bonsoir, je m'appelle Claudia Rodríguez. Je viens de Louisiana de Siquirés. Ça fait 20 ans que je vis ici. Avant, j'étais à San José. Louisiana, c'était une zone rurale où l'eau était pure, l'environnement sain, propre. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Les plantations d'ananas se sont tellement étendues. Les multinationales sont venues s'implanter et ils nous ont contaminés. Aussi bien l'air que l'eau. Mais le gros problème, c'est vraiment l'eau. Avant, on avait une source d'eau limpide, très bonne. Mais aujourd'hui, elle est contaminée parce qu'ils ont installé une plantation à 100 mètres au-dessus de cette source. Et c'est tellement pollué que ça nous a rendus malades. La majorité des familles sont malades. Mon mari est malade. Avant, on allait à la rivière qui était un endroit merveilleux pour se baigner. Maintenant, on ne peut plus le faire. Il y a même quelqu'un qui a bu la tasse. Il s'est senti mal et il est parti à l'hôpital. Le médecin lui a dit, n'allez plus jamais dans cette rivière pour vous baigner. Parce que vous allez finir à l'hôpital avec je ne sais quelle maladie. C'est terrible. Les personnes qui ont un métabolisme plus faible, ça leur a donné des ulcères, des allergies. Beaucoup ont des cancers de la peau. Pour le moment, je ne sais pas si ça vient de la contamination de l'eau ou bien du soleil, mais bon, le fait est qu'ils sont malades. Et moi, j'ai des problèmes de reins, parce que du coup, je ne bois pas assez d'eau. Si vous saviez, l'eau est vraiment dégoûtante. Donc, ce que je fais pour dissimuler son goût et son aspect, c'est que je prépare du café ou je la coupe avec des jus. C'est vraiment difficile. Notre lutte est vraiment compliquée.
L'autre domaine qui peut mettre à mal l'objectif à l'horizon 2021, c'est la question des transports. À eux seuls, ils sont responsables de la moitié des émissions de gaz à effet de serre et on peut vraiment le constater en marchant dans la capitale. Les habitants de San José vivent au rythme des embouteillages, des klaxons et des fumées noires qui s'échappent des bus. Après plus d'une heure passée dans les transports pour parcourir 10 km, nous arrivons dans le quartier La Sabana où nous rejoignons une militante du transport électrique. C'est l'heure de pointe, il pleut, nous nous installons dans un café.
Mon nom est Monica Araya. Je suis la directrice de Costa Rica Limpia et la vice-présidente de l'association costaricienne de mobilité électrique.
Donc, quels sont les problèmes majeurs du Costa Rica en termes de transport ?
Le Costa Rica a de nombreux défis à relever dans ce domaine. Le transport public date du siècle passé. Les bus sont vieux et polluants. Le système du Costa Rica est un système de concession. Et tous les 7 ans, les mêmes compagnies de bus obtiennent la concession. Toujours. Il n'y a pas moyen de dire à ces compagnies, attendez, ce bus est vieux, ce bus pollue. Si vous ne changez pas votre flotte, on vous retire la concession. Et comme ça, l'histoire serait terminée. C'est parce que les politiques ne veulent pas réguler. Personne ne veut payer le coût politique d'une telle décision et perdre l'appui des compagnies de bus. Il y a une autre limite, c'est que nous n'avons aucune culture piétonne. Quand vous marchez dans San José, vous voyez que c'est une ville avec de très belles choses. Mais c'est aussi une ville où les piétons sont en danger à cause des voitures. La combinaison entre un système de bus défectueux et une culture non tolérante envers les piétons fait que la première chose qu'une personne décide de faire, lorsqu'elle a un peu d'argent, c'est acheter une voiture. Je ne suis pas d'accord avec le fait d'être totalement anti-voiture, parce que ce serait très difficile culturellement parlant. Mais là où je veux en venir, c'est que les gens ont besoin d'options. Si un jour je n'ai pas envie d'utiliser ma voiture, je dois pouvoir utiliser de bons transports publics. Et si j'ai envie de prendre ma voiture, eh bien je le fais. Mais elle doit être électrique.
Et avec tous les problèmes de transport du Costa Rica, vous pensez qu'il sera possible d'atteindre la neutralité carbone en 2021 ?
Les mesures utilisées vont nous permettre d'atteindre la neutralité carbone, oui, parce que les paramètres prennent en compte les compensations par la forêt. Mais selon moi, ce qu'on doit faire d'ici 2021, et il reste 4 ans, c'est travailler sur le concept d'indépendance. Qu'est-ce qu'on célèbre en 2021 ? C'est le bicentenaire de l'indépendance du pays. Donc il faut qu'on puisse avoir la capacité de créer une nouvelle histoire en devenant indépendant du pétrole, indépendant des combustibles fossiles. Si nous sommes le pays de l'électricité renouvelable, un pays touristique, avec de nombreux parcs nationaux, avec beaucoup d'écotourisme, pourquoi ne créons-nous pas quelque chose de nouveau, comme devenir le pays où les touristes peuvent venir et parcourir tout le territoire en voiture électrique, grâce à l'électricité renouvelable du Costa Rica.
Cuando te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan el sol y el cielo entero.
Si le Costa Rica était l'un des premiers, plusieurs dizaines de pays se sont désormais fixés un objectif de neutralité carbone d'ici 2050. Merci à Léa Morillon pour ce reportage, à François Porcheron pour la réalisation de cette émission. N'oubliez pas, vous pouvez nous réécouter sur notre application Pure Radio ou sur le site internet de RFI, onglet émission. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve la semaine prochaine, même planète, même heure.
Es preciso decir una mentira. Di que vienes de allá, de un mundo raro, que no sabes llorar, que no entiendes de amor y que nunca has amado. Porque yo donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado, olvidando el rencor, no diré que tu adiós me volvió desgraciada. Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfé en el amor y que nunca he llorado.